RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Effervescence, une émission d'entre deux ponts. Avec nous, pour faire briller nos yeux, quatre chroniqueurs. Ingrid Blanchard, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous depuis Lyon, on connaît votre intérêt pour les questions féministes. Et vous avez vu Mon crime de François Ozon et lu le dernier livre d'Annie Ernaux. Laetitia Forgeaud-Arc, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous depuis Strasbourg. Vous êtes une grande amatrice de bande dessinée. Vous nous parlerez de l'exposition consacrée à Catherine Meurice qui se tient à la Fondation Tommy Ungerer. Et vous reviendrez sur le fauve d'or du dernier festival d'Angoulême, La couleur des choses. Stéphane Covio, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous êtes le fondateur de l'association Venez et Voyez. Nous le savons, aucune grande exposition ne vous échappe. Et vous nous encouragerez à aller au musée Jacquemart-André découvrir les œuvres de Bellini et au musée d'Orsay voir celle de Manet et de Degas. Et je termine par vous, bonjour David Groison.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Phosphore, rien de ce qui concerne la jeunesse ne vous échappe et vous avez vu un documentaire réalisé par deux jeunes gens sur la ville de demain. Et puis vous êtes également un fin connaisseur de photographie et avec vous, on découvrira un portrait de l'Amérique, une Amérique malade de ses armes. Voilà, chacun est à sa place, on peut ouvrir Effervescence.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Et avant de donner la parole à notre équipe d'Effervescence, je vous propose de rencontrer un auteur de bande dessinée dont le dernier album m'a ébloui. Frédéric Biel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous avez de nombreux albums à votre actif, vous êtes publié depuis bientôt 30 ans dans plusieurs maisons d'édition, mais votre dernier album, À la recherche de l'homme sauvage, est aussi un premier album, puisque c'est le premier que vous signez seul, le premier dont vous signez le scénario. Je dis ça et je corrige aussitôt, car en 2022, vous aviez publié tout seul, Tant que nous sommes vivants, qui était là une adaptation d'un roman d'Anne-Laure Bondou. Mais là, avec À la recherche de l'homme sauvage, c'est vraiment le premier où vous racontez une histoire de votre cru. Alors l'histoire, hein, c'est celle d'un jeune garçon, Augustin. On le découvre, il a 8 ans, il vit et grandit dans le Paris des années 60. C'est un garçon solitaire et rêveur qui fait des rêves étranges. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ses rêves ?
Oui, alors ça, c'est un petit peu la base de tout. Alors c'est vrai que ces rêves, c'est un peu des rêves que j'ai fait moi-même quand j'étais petit. Pas exactement les mêmes, mais je rêvais effectivement d'un homme, d'un bonhomme, comme je disais, qui entrait dans ma chambre. Et le vague souvenir que j'en ai, alors qui est un souvenir peut-être reconstitué au fil des années, voire des décennies, c'est une silhouette sombre. Voilà. Et ce qui fait que j'ai fini par, au cours de l'écriture, par donner vie à ces rêves, au cours duquel l'enfant rêve de l'homme ombre. Je cherchais quelque chose d'un petit peu enfantin, d'un petit peu, presque un petit peu naïf dans la façon de décrire finalement quelque chose qui le terrifie, parce que ce rêve, ce cauchemar, il est récurrent. Voilà. Donc, disons que là, l'origine en est en partie autobiographique. Et le petit garçon, alors moi je vivais pas forcément à Paris, alors dans les années 60 non, parce que on a à peu près un peu plus de 10 ans d'écart avec Augustin. Moi je suis plus jeune quand même, mais alors je l'ai pas situé dans les années 60 non plus par hasard, hein, pour des tas de raisons. Mais effectivement là je suis parti de quelque chose, de quelque chose de personnel. Voilà.
On comprend bien qu'il y a beaucoup de vous chez Augustin. Augustin, il passe son temps à dessiner. Vous aussi, vous dessinez tout petit. Vous aussi, vous avez dessiné votre homme ombre.
Alors moi, je ne sais pas si je l'ai dessiné, l'homme ombre. En tout cas, j'ai dessiné, oui. J'ai toujours dessiné. Le petit garçon qui dessine à plat ventre sur le parquet dans sa chambre, là, c'est vraiment moi.
C'est vous.
C'est moi. Ouais. Et dans cette chambre-là, parce que j'ai vécu. Alors effectivement, quand j'avais à peu près l'âge de mon héros, quand on le rencontre, je vivais seul avec ma mère dans un voilà. Et donc on vivait dans un petit appartement après le divorce de mes parents. Et là, je me réfugie dans les livres et dans les dessins. Et le petit appartement qu'on voit est une tentative de reconstitution de l'appartement qui était le nôtre en 60. Là, nous, c'était en 74.
Alors, on va un peu tourner les pages de l'album et Augustin, on le retrouve des années plus tard. Alors, il est tourmenté toujours un peu moins quand même par ses cauchemars et il est prêt à partir à leur suite, à la poursuite de cet homme ombre. Qu'est-ce qu'il recherche, Augustin, en fait ?
Alors là, ça, si je le savais, parce que c'est pas par hasard que finalement cette histoire, elle est racontée beaucoup du point de vue de ceux qui le rencontrent, qui vivent avec lui. Au moins pour un temps, parce qu'en fait, je crois que c'est quelqu'un qui cherche un sens à quelque chose qui le hante, en fait, et qui le dépasse. Alors, quand on lit l'histoire, on peut aller pointer des origines possibles. Voilà, je vais pas en dire trop, mais il y a des événements de sa vie, à divers moments de sa vie d'ailleurs, qui peuvent en partie expliquer, ou en tout cas qui peuvent avoir alimenter cette obsession, ce rêve, et puis ensuite le fait que ce rêve se transforme en une idée fixe quand il est adulte. Je pense qu'il cherche un peu à être en paix avec ça, avec lui-même. Je pense qu'il a cette espèce de foi, de certitude qu'il y a quelque chose. Puisque ça le hante, puisque c'est en lui, mais il ne se l'explique pas, en fait. Donc c'est ça, et c'est ce qui fait qu'il va essayer, comme dit sa copine dans une lettre, de rationaliser en même temps cette obsession qui est presque transcendante, quoi. Et il va essayer de, voilà, c'est pour ça qu'il devient, par exemple, préhistorien, parce que il pense qu'il y a un lien avec peut-être des comment dire, des êtres qui auraient vécu il y a des dizaines de milliers d'années, qui peut-être vivraient encore quelque part. Et il y a aussi le fait qu'il hantait le musée, le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc c'est quelque part un milieu qu'il connaissait bien, et qui le faisait rêver, et qui a dû aussi en partie alimenter ses rêves. Donc voilà, je crois qu'il essaye de donner un sens à tout ça, de trouver un sens, et je crois qu'il attend en même temps quelque chose. Il attend une forme de, je vais pas dire de révélation, mais il attend quand même, il attend un signe, quoi. Et effectivement, il va recevoir un signe, et c'est ce signe qui va le faire partir.
Alors, on va pas en dire plus. Vous, Frédéric Biel, vous avez eu aussi envie de partir, ou la BD et le dessin sont une forme de quête?
Oui, alors pour moi, effectivement, la bande dessinée, le dessin, je vais pas dire que ça me suffit, mais oui, c'est un peu ma quête à moi. Je pense que le dessin qui raconte une histoire, c'est pas le dessin pour lui-même. Je sens bien que c'est pas mon langage, la pure forme. C'est pour ça que je ne suis pas peintre, je ne suis pas plasticien, mais je suis auteur de bande dessinée. Parce que comme je l'ai dit au départ, je suis passionné par les histoires, et mon langage, c'est le dessin. Voilà. Donc effectivement, là, je sens bien. Par exemple, il y a une forme de mise en abîme dans ma propre quête du récit, de l'histoire à raconter, et dans la quête du héros, en fait, de mon héros. Il y a quelque chose, et il y a une mise en abîme aussi dans certains éléments contenus dans le récit, et qui sont effectivement qui font partie de ma vie, quoi. Voilà.
Alors justement, dans ces pages, à la recherche de l'homme sauvage, il y a de nombreuses allusions à des grands maîtres du récit d'aventure, Jules Verne, Kipling, Saint-Exupéry, mais surtout Hergé. Augustin, oui. Il a parfois des airs de petit prince quand il est enfant, mais il a aussi des airs de Tintin plus tard. Sur sa route, il va croiser un capitaine qui a tout de ad hoc, et puis surtout son homme ombre. Forcément, on pense un peu au Yeti. Alors, quelle est votre relation avec l'œuvre d'Hergé ?
Alors, je ne suis pas tintinophile, au sens où je n'ai pas une obsession du détail, et disons, je ne suis pas un exégète de son œuvre, mais Il y a la rencontre étant enfant, un peu comme mon personnage, hein, qui a quelques albums d'Hergé dans sa chambre. Et à un moment donné, on lui offre un album qui va changer sa vie, qui est Tintin au Tibet. Et c'est pas n'importe qui, puisque c'est sa mère qui lui offre, enfin qui lui dépose, qui lui laisse, parce qu'elle est même pas là quand il le reçoit. Donc ça lui apparaît comme ça, c'est cet album-là, qui va finir par le hanter. Et ce qui fait que là, oui, là, il y a une forme de, alors, pardon, je vais être un petit peu pédant, mais je vais citer Nerval. Il y a un épanchement du songe dans la nuit, dans la vie réelle. Voilà. Il y a quelque chose, effectivement, comme si l'œuvre d'Hergé sourdait, comme ça, finissait par faire partie de sa vie. Et, parce que moi, c'est un dessin, c'est une façon de raconter, mais j'ai les mêmes mots de dire, c'est un dessin que j'ai rencontré quand j'étais enfant. Et comme tout ce qu'on rencontre quand on est enfant, je crois qu'il se passe quelque chose de plus fort. Il y a une rencontre, moi, quand je vois des cases, quand je vois des planches, des aventures de Tintin, ça me projette quelque part à l'époque où je les ai découvertes pour la première fois. Et ce qui fait que oui, alors c'est pas du tout présenté comme ça forcément quand on lit l'histoire, mais d'une certaine façon, cette rencontre avec l'œuvre d'Hergé, ou plus spécifiquement avec les aventures de Tintin, et avec même certains albums particuliers, eh bien, ça va finir par faire partie de sa vie, quoi. Et c'est pas par hasard qu'il rencontre. Je pense que lui, il ne se dit pas, tiens, j'ai rencontré une forme de Capitaine Haddock. Il n'y pense même pas. C'est pas du tout formulé. Mais le lecteur, il pense, parce que lui, il est passé un peu de l'autre côté du miroir, et il vit finalement quasiment une aventure de Tintin. Sans s'en rendre compte, parce que c'est aussi sa propre aventure. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai eu envie d'imaginer une forme d'album, une aventure d'une sorte de Tintin. Mais en même temps, c'est une histoire que j'ai pensée avec d'autres, que j'ai nourri d'autres éléments, et notamment d'éléments très personnels. Voilà.
Frédéric Biel, on a beaucoup parlé de l'histoire avec de la recherche de l'homme sauvage. J'aimerais qu'on parle des dessins. À la base, vous êtes un dessinateur. Le voyage, oui. L'aventure, c'est l'occasion de dessiner des mondes lointains. Et chez vous, il y a toujours un grand soin apporté au paysage. Dans une case, dans une page, c'est important pour vous, les paysages ?
Oui, en fait, pour moi, c'est pas vraiment d'ailleurs des paysages au sens de, c'est pas des décors en fait, parce que c'est vrai que la notion même de paysage, elle est un peu, ça c'est une vision assez récente, hein, même dans l'histoire de l'art. Je pense qu'on percevait pas du tout ce qui nous entoure sous cette forme-là avant l'époque romantique, où on s'est mis à regarder les montagnes, les ciels. Auparavant, ça faisait partie des gens, en fait. Ça faisait partie de la personne qui allait travailler le matin. Il se disait pas « Ah, c'est beau ce paysage ». Il était sur tel champ, qui avait tel nom, qui avait telle histoire. Il venait de tel village, en passant par telle ferme, par telle route. Tout était un peu animé, vivant, et pas comme un décor en fait. Et moi, j'ai l'impression que je dessine, disons, ce qui entoure mes personnages, un peu de cette façon-là. Pour moi, ces montagnes, elles ont une histoire. C'est pour ça que j'en évoque comme ça, enfin, par bribes, un petit peu. Je cite Alexandre le Grand, je cite ou même effectivement quelques auteurs qui ont parlé avant de ces contrées. C'est pareil pour le Paris des années 60 et des années 70 que j'ai dessiné. Pour moi, c'est un Paris qui est hanté par, pourquoi pas, par Pérec, par Modiano, par Tardy maintenant. C'est pas un lieu qui est inhabité en fait. Et donc j'ai mes dessins, j'essaye qu'ils soient eux-mêmes habités par tous ceux qui y sont passés avant en fait, ne serait-ce que les artistes qui en ont parlé ou qui les ont représentés.
Frédéric Biel, si vous deviez faire lire à la recherche de l'homme sauvage à Hergé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise ?
Mais vous savez que je me suis arrangé déjà pour qu'il soit lu par des, non, pas au moins par des grands tintinophile par un Benoît Peters ou par un Benoît Mouchard. Bon, voilà, j'ai pas. Je sais que bon, Benoît Peters m'a envoyé un très gentil mot pour me dire que ça lui avait plu. Mais oui, je pense que j'avais quand même un petit peu besoin, pas tout de suite. Hein, je l'ai fait bien après, enfin quelques semaines après la sortie du livre, mais je l'aurais fait parvenir parce que oui, je pense que. Mais parce que j'étais pas sûr de la manière dont ce serait pris en fait par un lecteur.
Et
est-ce que ça allait pas être un petit peu grossier? Oui, beaucoup. Oui, parce que je me suis rendu compte que ça n'entrave pas du tout le récit, que les lecteurs le prennent d'abord pour une histoire qui les emporte, et ça c'était quand même mon but premier, et que en plus, il y a des éléments, il y a des références entre autres à l'œuvre d'Hergé, Saint-Exupéry ou autre. Voilà. Mais j'ai eu l'impression que ça a ajouté au plaisir du lecteur, c'était ce que je voulais faire, et non pas, j'avais pas envie de faire une sorte de fan service comme on dit maintenant, quelque chose qui m'intéresse pas du tout, qui me paraît même assez malhonnête, alors qu'il est tout à fait normal d'être soi-même en tant qu'auteur. On est évidemment nourri par des tas d'auteurs qui nous ont qu'on a rencontrés, dont on a rencontré l'œuvre, et on a parfois envie de leur rendre hommage. Donc oui, pour moi c'est un hommage aussi à l'œuvre d'Hergé.
À la recherche de l'homme sauvage, c'est pas du tout un pastiche d'une aventure de Tintin, mais bien une aventure très personnelle, signée Frédéric Biel. Merci beaucoup Frédéric Biel d'avoir pris ces minutes pour nous en parler.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Nous retrouvons maintenant les chroniqueurs d'Effervescence pour découvrir leur coup de cœur. Et pour commencer, nous prenons la direction de Venise. Le musée Jacquemart-André à Paris propose une exposition sur l'artiste Giovanni Bellini, un peintre qui a profondément marqué l'art de la Renaissance en renouvelant le canon. Une exposition qui veut souligner les influences de son œuvre. Alors Stéphane Covio, vous l'avez déjà vu plusieurs fois cette exposition. Expliquez-nous pourquoi Bellini est un peintre important et comment fonctionne cette exposition.
Alors c'est une exposition qui n'est pas une immense exposition par la taille, comme ce qu'on voit habituellement au musée Jacquemart-André, mais avec un très bon choix d'œuvres. Elle est très bien faite, elle est très claire, et il y a des petites perles. C'est vraiment une exposition à visiter. Bellini, c'est un peintre qui est peu exposé. Il n'y a jamais eu de grande rétrospective en France consacrée à cet artiste, alors que c'est le grand peintre vénitien du XVe siècle. Il est né en 1430, il meurt en 1516, vous voyez, il vit longtemps. Il est fils de peintre, il est frère de peintre, il est beau-frère de peintre. Ça fait partie des premières influences qu'il va recevoir. Par la suite, il va recevoir des influences de peintres flamands, il va recevoir des influences de peintres qui vont être ses élèves, parce qu'il va chercher un peu partout des choses qui l'intéressent. Le principe de l'exposition, c'est de voir ces différentes évolutions de son style au cours de sa carrière, comme il a vécu longtemps, mais il a beaucoup changé. Et ce qui est assez remarquable, c'est que c'est un peintre qui n'a jamais cessé de se renouveler. Il n'y a pas de période faible chez lui. Moi, j'ai un faible pour les années 1500 à peu près, qui sont plutôt déjà à la fin de sa vie. Il a 70 ans au moins. Et là, il aborde une étape absolument incroyable de son travail, où il y a une espèce de somptuosité colorée. C'est un grand coloriste qui se révèle. Il s'était déjà révélé avant, mais là, c'est l'épanouissement absolu de la couleur. À partir des années 80, c'est assez remarquable quand on voit ses œuvres. On ne sait pas comment les nommer facilement d'un point de vue coloré. Vous voyez, parfois, vous avez envie de dire, ça c'est bleu, ça c'est rouge, ça c'est vert. Là, non, c'est pas possible. C'est vert, mais c'est un vert particulier. Il faut ajouter le mot bronze, il faut ajouter autre chose. C'est un gris particulier, c'est plutôt taupe que gris. C'est un bleu dans lequel il y a du gris. C'est un rouge qui est plus lit de vin, ou en tout cas un carmin un peu spécial. Normalement, c'est des couleurs plutôt mates. Là, elles sont brillantes, c'est moiré. C'est un somptueux coloriste.
Et qu'est-ce qu'il nous raconte?
Alors, il nous raconte essentiellement de la peinture religieuse. C'est aussi un peintre qui a réalisé des portraits, mais c'est peu présent dans l'exposition. Le focus est fait sur notamment pas mal de vierges à l'enfant, qui font partie d'un lot d'œuvres importants produits par lui pour une clientèle qui demande beaucoup ça. Donc, avec une grande variété dans la mise en place des personnages. Il y a quelques crucifixions, dont une que je n'avais jamais vue, qui était la collection Corsini à Florence. C'est un palais privé dont on ne visite la collection de peinture que sur invitation.
Magnifique. Vous n'aviez pas été invité?
Mais non, pour l'instant pas. Mais je ne désespère pas.
Mais j'espère.
C'est intéressant parce qu'on a mis deux crucifixions l'une à côté de l'autre. Une de jeunesse, où alors c'est extrêmement dessiné, beaucoup de petits détails. Et puis celle-là qui date des années 1480, où on a un aspect méditatif, silencieux, majestueux, tout simple en même temps. Enfin, c'est une dimension contemplative très forte. Il y a beaucoup de comparaisons à faire dans l'exposition entre des œuvres qui ont été judicieusement placées. Je vous disais que j'avais un faible pour la fin, notamment une Vierge à l'enfant qui vient de la Galerie Borghese à Rome. quand on va à la galerie Borghese à Rome, on va surtout s'attarder sur les Caravages, sur les Bernins. On fait pas attention à des peintres comme ça qui sont présents par une œuvre, par-ci, par-là. Et là, il y a un bijou absolu de peinture. Une Vierge toute simple, les yeux tournés vers le bas, tenant l'enfant dans les bras. Lui aussi, les yeux tournés vers le bas. C'est nimbé de silence. On a des modelés, des sfumato à la Léonard de Vinci, chose qu'il a introduite dans sa peinture à la fin de sa vie, à l'initiative de Giorgione, qui est un de ses élèves. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. À nouveau, on est plongé dans le silence en regardant ça. On est captivé par ce qu'on voit, au-delà de l'aspect incroyablement séduisant de la couleur. D'une certaine manière, c'est un peintre parfait. Dürer, qui vient à Venise en 1506, une deuxième fois après un premier séjour un peu avant 1500, dit « Bellini est toujours le meilleur ». Le vieux Bellini est toujours le meilleur.
Le vieux Bellini est toujours le meilleur. C'est donc à voir au musée Jacquemart-André à Paris. Je crois qu'on peut y aller jusqu'à cet été.
Oh, je pense que oui, au moins jusqu'à début juillet.
Ça vient de commencer, voilà. Allez, on reste dans le domaine des arts plastiques, mais on change complètement d'univers, de style et d'époque. Laetitia Forgeau-Darc, vous nous avez déjà parlé de la Fondation Thom Ungerer à Strasbourg. Eh bien, ce haut lieu de l'art en Alsace rend hommage à une toute jeune académicienne, hein, l'autrice de bande dessinée Catherine Meurice, qui vient de rentrer il y a quelques mois à l'Académie des Beaux-Arts. Les auditeurs habitués de cette émission savent combien ici, dans cette équipe, nous aimons Catherine Meurice. Alors avant de donner la parole à Laetitia, on écoute Catherine Meurice. C'était dans ce studio en octobre 2018.
Le Caravage, il a été, c'était une fulgurance, un remède après l'attentat contre Charlie. Parce que je suis allée à Rome, je raconte ça dans la légèreté. Je suis allée à Rome chercher la beauté. Je me suis accrochée à ce mot-là. Je voulais me détourner de la catastrophe et pas pour pas l'oublier, pour la retraverser, essayer de la comprendre et essayer de me remettre sur pied. Et pour ça, je suis allée à Rome et en effet, j'ai vu le Caravage et dans le Caravage, il y a toute notre histoire, il y a l'histoire humaine, quoi. Il y a la part des ténèbres et puis il y a la lumière. C'est ce clair-obscur, c'est ça. C'est le Caravage était lui-même un assassin, c'est un peintre absolument mystérieux. Voilà, et le Caravage, on le retrouve dans les grands espaces, débarrassé peut-être de tout ce poids qu'il y avait quand je suis allée le voir à Rome en 2015. Là, je le retrouve dans sa lumière, et c'est un guide. Je crois que voilà, je pense que beaucoup d'artistes peuvent être des guides de quelques siècles qu'ils soient. On en a besoin.
Voilà, comme on fait le lien entre la grande peinture et la bande dessinée. Une réaction, Laetitia Forgeau-Darc?
Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. En fait, Catherine Meurice, elle établit absolument aucune hiérarchie entre les arts et les lettres. Et quand on regarde son dessin, eh bien, il puise autant dans la couleur de Delacroix, dans les lignes de Gustave Doré, dans le pastiche de Rabelais, dans la symphonie de Stravinsky, ou encore même dans les rythmes de Bernstein. C'est ça qui est touchant dans cette expo qui est présentée donc en ce moment au musée Ungerer. C'est qu'en fait, on découvre une artiste vraiment complète et sans complexe, en fait. Les premières planches, moi, qui m'ont touchée, c'est des planches qui sont issues de son ouvrage « De la Croix » et qui rentrent, en fait, en résonance, notamment avec les échanges entre le grand peintre et puis Alexandre Dumas, qui était grand ami. Et l'expo présente des esquisses de « De la Croix » en parallèle avec des dessins incroyables de Catherine Meurice à l'encre de Chine, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité. C'est vraiment un enchantement, en fait, de voir ce trait qui s'inspire, mais aussi qui répond sans aucun complexe à un génie comme Delacroix.
Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition? Comment est-ce qu'il présente le travail de Catherine Meurice?
Alors, comme je le disais, il y a effectivement beaucoup de planches de bandes dessinées et d'ouvrages, mais Catherine Meurice, c'est pas seulement une dessinatrice de bandes dessinées, en fait. C'est également une artiste, c'est une artiste plurielle, de toute façon, on va être clair. On sent qu'elle aime sortir des cases, elle a un talent, une sensibilité. Alors, par exemple, si on parle de ses dessins de presse quand elle était chez Charlie, c'est un trait qui est rapide, qui est incisif, qui est dépouillé. Mais, par exemple, pour des illustrations de livres jeunesse qu'elle a beaucoup fait, elle va sortir sa palette des encres de Chine de couleurs, avec beaucoup d'humour, sans oublier beaucoup de délicatesse, de poésie. Il y a par exemple des planches d'illustrations de fables de La Fontaine qui sont absolument savoureuses. Et là encore, elles sont mises en perspective avec des planches de Gustave Doré. que tout le monde connaît plus ou moins. Je cite un exemple que j'ai trouvé magnifique, la fable du héron, par exemple. On dirait une estampe japonaise, en fait. On voit quelques traits très vigoureux, vous imaginez, au pinceau, à l'encre, où on voit notre héron perché sur une patte au milieu des gens, dans une eau qui est turquoise et qui laisse juste la transparence nécessaire pour voir des petits poissons malicieux qui se faufilent à travers les gens. C'est superbe, en fait. Moi, je m'attendais pas à voir ça chez Catherine Meurice.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Catherine Meurice? Quel ouvrage pour entrer dans son œuvre?
Moi, je vais en donner trois rapidement, je dirais, justement pour cette espèce de grand balayage, ce grand savoir. Il y a une histoire de la littérature qu'elle a appelée « Mes hommes de lettres ». Alors dans ces hommes de lettres, il y a George Sand, par exemple, avec un tableau de son époque, en fait, de ce qui se vivait, des révolutions d'alors, qui est absolument extraordinaire. Et évidemment, il faut voir « La jeune femme et la mère », où on découvre tout son amour pour la nature, en fait, qui est extraordinaire.
Moi, je rajouterais La légèreté et Les grands espaces, qui sont pour moi les deux plus beaux albums de Catherine Meurice. Ce sont les albums d'après l'attentat de Charlie Hebdo, avec lequel elle retrouve le goût de la vie.
Tout à fait. Il y a quelques-unes de ses planches, donc à voir au musée Tommy Ungerer à Strasbourg jusqu'au 3 septembre.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et on continue à parler de la place des femmes dans notre société. Après Catherine Meurice et l'univers de la BD, on l'a pas dit, mais l'exposition s'appelle
Une place à soi.
Voilà, en référence à un livre non moins célèbre. On va retrouver notre prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, qui est de retour avec un petit livre intitulé Une conversation. Et c'est un échange avec sa consœur et amie, la sociologue Rose-Marie Lagrave. Alors Ingrid Blanchard, vous avez lu ce livre pour nous. On y retrouve les thèmes chers à Annie Ernaux.
Oui, absolument Stéphanie. Alors déjà peut-être pour décrire ces deux femmes et ce qui les rapproche. Ce sont deux femmes d'une même génération. Bon, Annie Ernaux, on la présente plus. Rose-Marie Lagrave, vous l'avez dit, donc sociologue et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc elles sont d'une même génération, nées à peu près dans les années 40, issues d'un même milieu rural normand. C'est ce qui permet d'ailleurs d'emblée un échange entre ces deux intellectuelles à la fois complices et fluides, mais jamais complaisants. Et au cœur de ces échanges, alors c'est un ouvrage très très court, hein, qui fait une petite centaine de pages à peine, elles vont finalement confronter leur trajectoire de transfuge de classe, échanger sur leurs origines populaires et sur leurs pratiques de l'écriture, en mettant en avant à la fois leurs différences et leurs ressemblances. Alors par exemple, sur cette notion de transfuge de classe, là où Annie Ernaux n'a jamais censé de ressentir une certaine forme de trahison à l'égard du milieu dont elle s'est extraite, Rose-Marie Lagrave, au contraire, elle a grandi dans une famille, une fratrie de 11 enfants, alors qu'Annie Ernaux était vraiment fille unique, et avec un père qui était très soucieux de valoriser un certain capital culturel. Et elle dit qu'elle s'est, voilà, ce transfuge de classe, finalement, elle l'a pas ressenti tout de suite. Elle s'est sentie plutôt, ce qu'elle dit, métissée. Transfuge de classe, c'est venu beaucoup plus tardivement. Et puis, elles vont plus loin dans cette approche, en croisant vraiment cette notion de classe avec la notion de genre, et donc cette notion dont on entend de plus en plus parler, qui est la notion d'intersectionnalité. Et là où Rose-Marie Lagrave écrit qu'en raison du mépris de classe, elle avait plutôt tendance à donner plus d'importance à la classe sociale qu'au genre dans son travail, Annie Ernaux, elle, explique que pour elle, les deux ont toujours été absolument indissociables, que l'intersectionnalité, pour elle, c'est absolument une évidence, et elle écrit « Les femmes ne subissent pas la domination masculine, elles ne vivent pas de la même façon leurs conditions selon leur classe sociale, selon qu'elles sont ou non racisées ».
Ingrid, est-ce que leur différence d'approche, c'est pas lié au fait que l'une soit sociologue et l'autre soit professeur de lettres ?
Si, bien sûr Stéphanie, et d'ailleurs elles en parlent à travers l'usage qu'elles font toutes les deux de la première personne dans leur travail, du jeu, hein, de l'usage du jeu. Alors on le sait, Annie Ernaux, c'est vraiment une écriture de l'intime, elle a placé le jeu au cœur de son travail, là où la sociologue Rose-Marie Lagrave se doit une certaine forme d'impersonnalité qu'exige l'écriture scientifique en sociologie. Et pourtant, en fait, dans leur échange, on voit bien que au croisement de ces deux disciplines, littérature et sociologie parviennent l'une et l'autre à traduire une expérience personnelle et collective. J'aimerais juste souligner un échange que j'ai trouvé vraiment magnifique à la fin de leur conversation, qui est un échange sur leur rapport à la vieillesse et sur l'importance de penser sociologiquement la vieillesse au lieu d'en faire un tabou, sur les valeurs que la vieillesse réintroduit dans notre société, notamment la vulnérabilité, la fragilité, la solidarité. Et Rose-Marie Lagrave a cette très jolie phrase, elle dit « Il faudrait pouvoir être vieux toute la vie pour ralentir les cadences de travail, pour défendre des sexualités déconnecter de la performance pénétrative pour oser dire ce qui entrave l'autonomie et avouer que l'on a besoin des autres. Et elle invite Annie Ernaux à écrire sur la vieillesse, donc on peut peut-être imaginer que ce sera l'un des prochains écrits de notre prix Nobel.
Une conversation entre Annie Ernaux et Rosemarie Lagrave, c'est publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Enfants aux chaussures à la mode, vous feriez mieux de courir, fuir mon pistolet. Tous les autres enfants aux chaussures à la mode, vous feriez mieux de courir plus vite que ma balle. Foster the People et cette chanson qui raconte la tuerie de Columbine. Alors il y a quelques semaines dans cette émission Effervescence, nous nous disions combien les Français aiment les auteurs américains. Alors nouvelle démonstration aujourd'hui avec vous David Groison, vous avez lu le dernier Paul Auster, Un pays de sang. Alors c'est un livre de Paul Auster, mais c'est pas seulement un livre de Paul Auster.
C'est un livre de Paul Auster et c'est aussi des photos de Spencer Ostrander. Et effectivement, c'est une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis. Les photos, d'abord, c'est des photos en noir et blanc, très, très neutres, de tous ces lieux de tuerie, de masse, de violence par arme à feu aux États-Unis. C'est des églises, c'est des supermarchés, c'est des écoles, c'est des parkings. Aujourd'hui désertés, sans personne. Et c'est des photos, du coup, qui cherche pas à être spécialement violente, mais comme on sait ce qui s'est passé juste avec la légende, on rentre dans une grande émotion.
Ce qui est important à dire, c'est que sur ces lieux où il y a eu des tueries, des massacres, il n'y a pas toujours de mémorial.
Ah, il y a jamais de mémorial.
Il y a jamais de mémorial. Et c'est ça, c'est l'absence en fait.
Et donc effectivement, mais on peut pas. Il y a plus de 100 morts par jour par arme à feu aux États-Unis. Comme le dit Paul Auster, qui accompagne les photos d'un texte, il explique « Il y a aujourd'hui plus d'armes à feu aux États-Unis que d'hommes, de femmes et d'enfants qui habitent sur ce continent. » Donc effectivement, il y a quelque chose d'exponentiel, de complètement dingue. Et du coup, le texte de Paul Auster, il est magnifique parce qu'il reprend les racines de cette violence, à la fois en le mettant dans les racines des États-Unis, avec la conquête de l'Ouest, avec les massacres incroyables des peuples qui habitaient là, avec l'histoire de l'esclavage, avec les... Au fond aussi les lois Jim Crow, et une fois qu'on a aboli l'esclavage, cette façon de lyncher, de tuer les Noirs, notamment dans le sud du pays, il le refait aussi à l'aune de sa propre histoire en fait. Et c'est ça qui est très beau aussi, à la fois comme petit garçon nourri de western, à la télévision, dans les feuilletons, dans les films, et puis son histoire personnelle où il dévoile un secret de famille, où en fait il apprend que sa grand-mère a tué son grand-père d'un coup de revolver devant ses enfants. Et il a une phrase où il explique effectivement que quand on parle de fusillade dans ce pays, on se concentre sur les morts, mais on prend rarement en compte les blessés, ceux qui ont survécu aux balles et continuent à vivre, souvent avec des blessures permanentes aux effets dévastateurs. Et effectivement, vu le nombre de gens dont on parle, on voit bien à quel point chaque famille américaine est marquée par cette histoire d'armes à feu, à quel point chacun a quelque part caché dans l'histoire familiale forcément un lien avec les armes à feu. Donc c'est un texte très fort.
On n'est pas habitué à, dans la plume de Paul Auster, à avoir des sujets aussi crus, aussi sérieux.
C'est des fois plus fantaisiste, c'est des fois extrêmement profond. Il y a beaucoup de textes de Paul Auster qui sont vraiment sublimes. Aussi, il y avait un texte que j'ai lu sur la vieillesse, où il reprend toute sa vie par les lieux qu'il a habités. On parlait tout à l'heure d'une place à soi, en reprenant, et c'est un exercice qu'il invite chacun à le faire, en fait, c'est de se dire, reprendre sa biographie par tous les lieux dans lesquels on a habité. C'était un texte vraiment très, très beau. Et là, du coup, comme c'est un essai, effectivement, il nous re-raconte aussi cette histoire du Second Amendement. La phrase est au fond plus subtile que ce qu'on en a fait ensuite le lobby des armes à feu. Il dit « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, Le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Mais on voit quand même qu'il y a une condition au début. C'est cette condition de dire que c'est nécessaire à la sécurité d'un État libre, cette milice, mais au fond, il montre que c'est une histoire assez récente, depuis les années 60, depuis les Black Panthers, depuis différents mouvements contestataires qui ont transformé, qui ont radicalisé le pays et qui ont fait qu'aujourd'hui, au fond, c'est un essai assez pessimiste sur la capacité qu'auront les États-Unis à se débarrasser de cette emprise des armes à feu et de la violence.
Alors, vous nous l'avez dit, David, hein, les États-Unis sont nés dans la violence de la conquête de l'Ouest et tous les petits garçons, comme Paul Auster, ont grandi, bercés par la petite musique des westerns qu'ils pouvaient voir à la télévision.
The sun is sinking in the west, the cattle go down to the stream, the redwing settles in her nest, it's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be. With my three good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling.
Les amateurs de western auront reconnu Dean Martin, Ricky Nelson et Walter Brennan dans Rio Bravo, quelques minutes avant l'attaque de la prison.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Dans vos oreilles, c'est toujours effervescent. Cette semaine sur RCF, je suis avec David Groison, Laetitia Forgeau-Darc, Stéphane Covio et Ingrid Blanchard. Ingrid, vous avez vu le dernier film de François Ozon, Mon Crime. Il est sorti au début du mois de mars, mais il tourne encore dans les petites salles de quartier. L'occasion de rendre hommage à tous ces petits cinémas de proximité qui font un travail formidable pour rendre le cinéma accessible. Ingrid, on écoute la bande-annonce et vous nous en parlez juste après.
Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle.
Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand.
Oui.
Monsieur Montferrand est mort.
Il a été assassiné.
J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie.
Monsieur Montferrand m'a sauté dessus.
Enfin, mademoiselle.
C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison.
Pas forcément. Légitime défense.
Alors, c'est moi.
Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes.
Moi aussi. Enfin, des femmes.
Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang gêne.
Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité?
Bravo, madame.
Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ingrid? Elle l'a tuée ou pas?
Alors, déjà, on entend dès la bande-annonce, je trouve cette ambiance complètement virevoltante et très rythmée du film. On retrouve le François Ozon que j'adore, de Huit Femmes ou de Potiche, avec cette comédie policière qui est pleine d'artifices et très inspirée du théâtre de boulevard. Alors, pour donner deux mots sur l'histoire, on est dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Une jeune aspirante actrice sans argent est accusée du meurtre d'un riche producteur libidineux qui a tenté d'abuser d'elle en lui promettant un rôle. Et pour ça, voilà, elle est aidée par sa meilleure amie, qui est avocate au chômage, interprétée par la brillante Rebecca Marder. Et toutes les deux vont s'emparer de ce crime que la jeune femme n'a pas commis. On le sait très vite, donc je ne dévoile rien. Elles sont soutenues par l'opinion publique et puis par un juge aussi qui est très pressé de clore l'affaire. Et c'est alors pour elles le début d'une nouvelle vie qui est pleine de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate. Alors François Ozon, on sait son amour des grands acteurs et là encore il s'entoure, et vous les avez entendus, d'une kyrielle de grands acteurs qui sont tous plus drôles les uns que les autres. Alors on a Lucchini en juge Tatillon. Isabelle Huppert en vieille actrice du cinéma muet qui souhaite faire son retour sur scène, André Dussolier ou encore Danny Boone en riche architecte avec son faux accent marseillais. Et ça fonctionne très très bien, je trouve. Tout est complètement excessif. Les acteurs surjouent constamment pour notre plus grand plaisir. Les costumes, les accessoires, les coiffures, tout est artificiel et totalement jubilatoire. L'intrigue va très vite. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a beaucoup d'amoralité aussi dans cette histoire. Et pourtant, on perçoit aussi un petit brin de cynisme et une certaine forme de gravité.
Ingrid, est-ce que tout cela n'est que comédie ou est-ce qu'il y a quand même un message sur la société de cette époque ou peut-être même, pourquoi pas, sur la société d'aujourd'hui ?
Alors, c'est pas un film à thème. Néanmoins, même si le film n'a rien de militant dans sa forme, on sent vraiment cette France totalement dominée par un pouvoir patriarcal qui est jamais remis en question. Les femmes sont réduites pour la plupart à des objets sexuels. Et ici, Ozon finalement dessine avec une certaine finesse dans tout le kitsch un vif plaidoyer en faveur de la condition des femmes. La misogynie est de la société et l'incompétence de la justice sont mis en lumière avec une certaine férocité et causticité. Donc oui, ça nous parle de notre société aujourd'hui. On pense évidemment à Harvey Weinstein dans ce producteur libidineux. On est dans une comédie post-MeToo, mais tout est fait, et c'est ce que je trouve assez savoureux, tout est fait finalement avec beaucoup, beaucoup de fantaisie et d'ingéniosité. Et finalement, on sent que c'est un film que François Ozon a fait pour faire plaisir vraiment aux spectateurs parce qu'on passe un très très bon moment. C'est divertissant et intelligent.
David, je crois que vous l'avez vu, vous confirmez aussi ?
Oui, et puis alors on l'entend dans la bande-annonce, c'est-à-dire que au début c'est du théâtre du boulevard et donc comme le dit très justement Ingrid, c'est surjoué. On se dit on va pas rentrer là-dedans parce que c'est... Et en fait c'est le même plaisir qu'au théâtre, c'est-à-dire que d'un coup on rentre dans les péripéties, le rythme, les prouesses d'acteurs et on passe un moment extraordinaire. Ouais.
Allez, on reste au cinéma et on reste avec vous David, avec un documentaire qui vient de sortir, qui lui aussi je pense va pas mal tourner dans les cinémas de quartier, les projections avec les associations. Ça s'appelle, je vous le dis pas, on écoute la bande-annonce.
Avec François, on a toujours vécu dans des grandes villes. Pendant le confinement, tout s'est arrêté. La ville a changé de visage.
Alors on s'est demandé si au lieu de fuir, il n'y avait pas quelque chose à faire. On a découvert que partout dans le monde, beaucoup de personnes se posent les mêmes questions sur l'avenir de nos villes. Et imaginent ce que pourrait être la belle ville de demain.
Un autre avenir dans nos villes est possible. Des villes où la nature a une place. Où elle nous fait respirer, nous protège, nous nourrit et nous relie les uns aux autres. Municipalité, entreprise, collectif, citadin, c'est ensemble que nous devons agir. Il ne tient qu'à nous, qu'à vous, de rendre nos villes plus belles.
Voilà, ça s'appelle La Belle Ville et ces deux jeunes gens, c'est Manon et François et on les suit et vous les avez suivis, David ?
Je les ai suivis, oui, parce qu'ils sont mignons comme tout, ils ont 25 ans.
Ils sont amoureux ?
Ils sont amoureux, ils sont tout beaux et tout. Et ils racontent effectivement que pendant le confinement, comme beaucoup d'entre nous, 75% de la population française habite en ville. Ça sera encore plus en 2050. Ils disent, est-ce qu'on quitte la ville ? On va trouver
la campagne,
se réinventer, etc. Et puis ils disent, non, si tout le monde fait ça, c'est un peu absurde. Est-ce qu'on pourrait pas réinventer les villes ? Et partant de ce postulat, ils font un voyage. Alors, ils ont un mauvais bilan carbone. Ils vont dans plein d'endroits sur la planète, mais pour nous, et ça, c'est super. Et donc, c'est pas très bien filmé parce qu'ils se filment eux-mêmes, etc. Il y a un côté un peu
artisanal,
bricolé, artisanal, ouais. Mais qui rajoute à l'authenticité du projet. Ils débarquent, par exemple, à Mexico. À Mexico, l'OMS dit partout sur la planète, il faut 9 mètres carrés d'espace vert par personne. On en est très loin. Donc, comment faire? On peut pas raser des quartiers entiers pour créer des parcs. Donc, comment on fait? Alors, il y a un ingénieur qui a inventé le verdé vertical en disant, on va mettre de la végétation sur tous les piliers d'autoroute, du coup, vraiment à la verticale. Ce qui fait un moment d'échangeur d'autoroute où d'un coup, ça fait comme des, à la place des troncs, du coup, sur le béton, il y a toute cette verdure, etc. C'est assez beau et intéressant. Et ils vont voir comme ça un peu partout sur la planète, à Chicago, à Berlin, à Paris, à Milan. Des initiatives pour rendre la ville plus habitable. Au fond aussi, beaucoup pour créer de l'agriculture en ville. Alors, ils vont voir, par exemple, une champignonnière à Bruxelles, qui est absolument géniale, dans les sous-sols, où ça produit des tonnes de champignons. On a vraiment envie d'aller la visiter. Aussi, tous les jardins partagés, toutes les techniques d'aquaponie qui permettent, effectivement, de cultiver là aussi à la verticale, sans terre, mais en essayant d'utiliser assez peu d'eau, etc. Donc, qui sont assez prometteuses. Et puis aussi en travaillant sur le compost, en se disant que peut-être le compost pourrait être une façon de réinventer le circuit court, que les agriculteurs pourraient apporter des produits locaux ici et que nous, on puisse, au lieu de jeter en ville nos déchets n'importe comment, bah effectivement, si on avait des composts, ils pourraient repartir avec et que ça permettrait peut-être de se passer de pas mal d'intrants. La municipalité de Milan fait ça. C'est-à-dire que la municipalité de Milan...
Il y a des composteurs au bas des immeubles.
Le composteur est obligatoire. Donc tout le monde a de quoi faire. Et on se dit que c'est une ville si chic. Milan y arrive.
Bah, c'est chic le compost.
Odeur. Oui, alors ça...
Il n'y a pas d'odeur le compost.
Il n'y a pas d'odeur le compost. Et ben voilà. Donc voilà, ça permet de... Moi, j'avais une petite frayeur là-dessus. Du coup,
vous n'avez pas un lombric... Comment ça s'appelle? Un composteur avec des lombrics dans votre appartement?
Je sais que je suis bobo, mais pas...
pas à ce point-là.
Pas à ce point-là, pas encore, en tout cas, parce qu'on va y arriver, effectivement, et ça va être obligatoire à partir de 2024. En tout cas, c'est un peu dans l'esprit du film de Cyril Dion Demain, c'est-à-dire que ça nous montre plein de bonnes idées, plein d'initiatives, aussi sur le lien, c'est-à-dire tous ces jardins partagés, on voit à quel point ça nourrit le lien, ça permet d'être en contact les uns avec les autres, ça peut réinventer au fond aussi notre lien social. D'un coup, quelque chose de systémique qui permet de se dire on pourrait inventer une autre façon de vivre ensemble.
Et alors, j'ai vu que c'est un film un peu participatif, ils ont un site où on peut déposer ses idées, etc. Enfin, ils veulent entraîner du monde avec eux.
Oui, parce que je crois que ces films-là, comme vous le disiez, avec les cinémas de quartier, ce qui est le plus intéressant, c'est au fond d'en parler après, de sortir et de prendre un verre ou de discuter dans la salle et de se dire comment on se réinvente tous ensemble et comment on peut piocher des bonnes idées là-dedans pour réinventer notre propre ville.
Voilà, donc soyez attentifs s'il y a des séances avec des débats après. Allez-y, ça s'appelle La Belle Ville.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Laetitia Forgeaud-Arc, avec vous, on fait une petite séance de rattrapage. Nous n'avons pas encore parlé de la BD qui a reçu le Fauve d'Or au dernier festival d'Angoulême. Ça s'appelle La Couleur des Choses. C'est d'abord quand même une performance graphique. Expliquez-nous le concept.
Oui, je précise déjà que le Fauve d'Or, c'est le prix du meilleur album pour les différents prix qui sont offerts au Festival de la BD d'Angoulême. Et effectivement, celui-ci, il a une forme assez déroutante. Moi, je suis une fan du dessin, enfin du trait. Et là, c'est le genre
c'est
de BD
Catherine
qu'on
Meurice,
ouvre.
Hein.
Non, c'est pas Catherine Meurice. Et c'est vrai que c'est le genre de BD qu'on ouvre et qu'on risque de refermer aussitôt si on n'est pas conseillé. Parce qu'en fait, la forme est effectivement déroutante. C'est très normalisé, en fait. Ça a été entièrement réalisé avec notamment des logiciels de cartographie. Donc, il y a des symboles, il y a des codes couleurs, il y a des pictogrammes. C'est un petit peu quand même le monde dans lequel on vit. Dès qu'on est sur notre GPS, ces codes-là, en fait, on les connaît complètement. Effectivement, on les attend pas tout à fait dans une BD. Il faut imaginer, le lecteur est un petit peu comme s'il regardait une carte. Il y a une vue plongeante, il n'y a pas de perspective. Et parfois, même sur certaines scènes, par exemple des scènes de ville, on va avoir une légende. Donc, par exemple, les pigeons, c'est un petit dessin ovale gris. Le piéton, c'est un petit rond vert. Le chien, c'est un triangle marron. Et donc, vous avez une grande case comme ça, une sorte de plan. Et en dessous, il y a la légende. Alors moi, j'avoue que sur le coup, j'ai été surprise. Et ensuite, en avançant un peu dans la lecture, j'ai trouvé que c'était assez génial pour l'imagination. Quand on a un petit peu d'imagination, on en a tous. Finalement, on a
traduit.
Une grande liberté.
On traduit, c'est ça?
Et ben, on traduit, c'est-à-dire qu'on voit l'ensemble, on a une vue d'ensemble, on voit le mouvement. Il y a beaucoup de scènes de mouvement où on voit des petits itinéraires. Le personnage va traverser une ville ou va aller de tel endroit à tel endroit, ou un plan de maison. Et dans notre tête, en fait, en tout cas dans la mienne, et ben on va traduire. Je sais que ce petit rond marron, c'est Simon, dont on parlera tout à l'heure quand on parlera de l'histoire. Et donc Simon, c'est moi qui le crée. C'est moi qui imagine comment il est. Et je trouve que, finalement, pour cultiver l'imagination, il n'y a rien de tel que d'avoir quelque chose d'assez sobre à regarder.
Alors, finalement, l'histoire, de quoi ça parle?
Simon, l'histoire, voilà. Donc, de Simon. Simon, il a 14 ans. Il est assez malmené par les autres parce qu'il est un petit peu rond. Il n'est pas très sûr de lui. Et alors, par un enchaînement de circonstances, il va gagner aux courses une somme complètement affolante qu'il ne peut pas toucher. Parce qu'il faut évidemment une signature parentale puisqu'il est mineur. Or, il se trouve que sa mère est retrouvée dans une mare de sang et qu'elle est dans le coma et que son père a pris la fuite. Va s'en suivre une course ou plutôt une quête, parce qu'en fait, au cours du livre, on découvre que ce Simon, il cherche son père, son véritable père, Donc cette quête, elle est complètement haletante, avec des rencontres improbables, des drôles de personnages. On va rencontrer une vieille baleine, un aventurier fatigué, une tireuse de cartes, et on fait même un détour par l'univers de Star Wars et Luke Skywalker. C'est assez délirant. Un ami de l'auteur, de Martin Penchon, a décrit cet univers en disant qu'il se trouvait entre Ken Loach, pour l'Angleterre populaire, et Audiard, pour les dialogues. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que l'histoire, elle est donc, vous l'aurez compris, étrangement portée par le dessin, mais surtout... En tout cas, moi, j'ai trouvé par les dialogues qui sont posés sur les côtés des cases, un peu comme des légendes, et que je trouve assez savoureux, en fait, assez caustique.
Bon, vous êtes presque en train de me convaincre, parce que moi, j'avoue que j'étais pas allée très loin dans les pages, mais là, je me dis peut-être que je vais reprendre la lecture. En tout cas, ça fait très branché sur la table de salon, hein, je vous le dis. Un mot sur Martin Pancho, Laetitia.
Martin Penchon, c'est un quadra, il est suisse. Et moi, j'ai trouvé son histoire très, très touchante, en fait. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal, le pauvre, avec sa scolarité. Il dit qu'il a accumulé toutes les 10, hein, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, tout ce qu'on voulait. Et il n'attendait qu'une chose, c'était d'en finir avec l'école. Il a fait une école d'art, un peu de ciné. Et en fait, dans ce personnage de Simon, il faut être honnête, il y a un petit peu d'autobiographie quand même, hein, ça c'est clair. Et puis j'aime ce qu'il dit, en fait, il cite cette œuvre en disant, ben en fait... Enfin, ce travail graphique en disant « c'est pour moi un véhicule que j'ai inventé pour raconter des aventures ». Donc il y a véritablement le job de la BD, il est là, c'est-à-dire raconter des aventures, et il a trouvé sa voie à lui. Je trouve que, ben bravo quoi, une espèce de belle revanche quand même.
Voilà, La couleur des choses de Martin Penchot, c'est publié aux éditions Ça et là, c'était donc le plus bel album d'Angoulême cette année, et prenez le temps de vous plonger dans cette aventure malgré le concept peut-être déroutant. Dernière étape de cette émission effervescence, le musée d'Orsay à Paris. Stéphane Covio, vous avez vu l'exposition consacrée à Degas et Manet, alors deux maîtres du 19e que tout pourrait opposer, hein, si on regarde leur personnalité, pourtant les liens sont possibles entre leurs deux œuvres, et c'est l'ambition de cette exposition.
Oui, alors ça c'est une grande exposition, grand format musée d'Orsay, avec cette chose assez originale de mettre en parallèle deux artistes avec un parcours qui est chronologique et thématique en fait. Bon, déjà, biographiquement parlant, ils se ressemblent. Ils sont nés l'un en 1832, l'autre en 34. Ce sont tous les deux des fils de famille. Degas, son père était banquier. Manet, c'est une famille de hauts fonctionnaires. Donc c'est la haute société. Les deux s'entendent bien de cette manière-là. Vous voyez, c'est quelque chose qui les rapproche d'une certaine manière. Et ce sont des peintres modernes. Donc il y a ces deux modernités parallèles. Ce sont des peintres qu'on qualifie de peintres de la vie contemporaine. Au 19e siècle, on n'aimait pas représenter des scènes de genre avec de la vie, avec des gens en habits contemporains. On trouvait ça pas beau. Mais eux l'ont fait. Ils sont les premiers à l'avoir fait. Vous voyez? Quelque chose que Baudelaire attendait particulièrement des artistes. Tous les deux ont une formation assez solide, hein, et aussi ils ont fréquenté l'Italie. Ils sont très marqués par la peinture italienne. Manet a une personnalité médiatiquement plus flamboyante. Il est beaucoup plus connu. C'est l'homme de 1863, Le déjeuner sur l'herbe. C'est l'homme de l'Olympia. C'est l'homme de scandales picturaux. Alors que Degas est moins connu à ses débuts. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de peindre pour vivre. Il vit de la fortune familiale. À un moment donné, ça va changer et il va être un peu plus sur le devant de la scène en avançant dans son existence. Alors c'est intéressant parce que déjà, on voit des œuvres qui viennent de loin, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des très beaux Manet, des très beaux Degas. Pour vous dire quelques petites choses personnelles, j'ai vu à quel point ces deux peintres étaient étranges. C'est longtemps que je sais qu'ils sont étranges, hein, mais
pourquoi
alors là, étrange? Ben c'est étrange. C'est quand vous regardez un tableau de Degas et que ça vous semble normal, ben c'est que vous le regardez pas bien d'une certaine manière. Vous voyez.
D'accord.
Et Manet, c'est à peu près ça aussi. Au-delà de la séduction et de très belles choses qu'on voit, il y a des mises en page, il y a des manières de traiter le sujet, il y a des compositions qui, en fait, quand vous les regardez, alors. Évidemment, il y a des tableaux qui sont plus anodins que ça. Mais les grandes œuvres, à un moment donné, vous dites, mais c'est quand même bizarre d'avoir fait ça comme ça. Et donc, ce sont des inspirations particulières. Il y a des recherches, il y a quelque chose de neuf qu'on voit très clairement chez l'un et chez l'autre. Alors, dans les comparaisons, Degas a un usage de la couleur avec plus de matité, il est plus discret. Manet a quelque chose de plus éclatant, de plus flamboyant. Moi, je pense à un tableau de Degas qui m'avait déjà marqué il y a quelques temps lors d'une exposition que je revois là et qui est absolument saisissant. On ne parle pas trop de ce tableau. C'est un tableau dans lequel on voit un intérieur. D'ailleurs, ça s'appelle intérieur. C'est une pièce close, sombre. Il y a une porte à droite. Il y a un homme appuyé contre la porte. C'est très faiblement éclairé, donc il est dans une relative pénombre. À gauche, on a une jeune fille de dos, assise sur une chaise avec un vêtement blanc. On ne voit pas son visage. Et puis, il y a un grand espace entre deux. Au milieu, il y a une table. Et sur la table, il y a une valise ouverte. et cette valise est incroyablement ouverte dans notre direction. L'intérieur de la valise est rose et on a cette surface rose là. On ne peut pas m'empêcher de penser qu'il s'agit d'une allégorie d'un sexuel. Et il y a une histoire de viol là-bas derrière, il y a quelque chose d'extrêmement troublant, de très fort. La mise en page picturalement est puissantissime. Alors là, pour aller au-delà de ce tableau-là, il y a la question de la relation aux femmes. Tous les deux ont des relations aux femmes particulières. Alors, on va dire que du côté de Manet, c'est plus simple. C'est un homme à femme, il est très à l'aise avec les femmes, c'est un homme séduisant, les femmes l'adorent. Il y a la question de la complicité avec Berthe Morisot, qui se voit dans beaucoup de tableaux sublimes, hein, les portraits de Berthe Morisot. Et Degas, c'est beaucoup plus complexe. C'est quelqu'un qui a des difficultés avec les femmes, très clairement. Il les représente souvent dans des... On voit pas très bien leur visage, elles sont assez anonymes. On dit souvent que c'est des petits animaux quand il a... Attention, hein, je ne prends pas ça dans le sens péjoratif, mais dans le sens, c'est surtout leur corps et des attitudes concrètes qui sont représentées chez lui. Enfin voilà, ça c'est un des éléments de différenciation des deux, mais il y en a plein d'autres, et c'est vraiment une très belle expo.
Stéphane, on vous écouterait pendant des heures. Manet, Degas, c'est au musée d'Orsay à Paris. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci de l'avoir suivie. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible, les chroniqueurs Ingrid Blanchard, David Groison, Laetitia Forgeau-Darc et Stéphane Covio. Merci également à Frédéric Biel de nous avoir parlé de son album À la découverte de l'homme sauvage, publié chez Delcourt. Et puis merci à Pierre Samanos et Pierre-Henri Paget pour la réalisation de cette émission qui était un peu délicate cette semaine. Je ne vous quitte pas sans une citation pour la route, une citation printanière que l'on doit l'américain Paul Auster dans son livre La Cité de Verre. Je ne peux pas dire qui je serai demain, chaque jour est neuf et chaque jour je renais. Bon week-end à tous.